prier un jour en un certain lieu. Et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Alors, vous avez vu, il prie Dieu, dite Père. Père. Est-ce que j'ai le droit d'appeler Dieu Père? Si on appelle Dieu Père comme ça, c'est évidemment, ça donnera une réponse. Mon Père. Alors, on avait lu la dernière fois l'évangile de Jean, chapitre 1, particulièrement le verset 12. À tous qui ont reçu la parole de Dieu, à tous qui croient en son nom, dans le nom de Jésus, la parole a donné le droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais qui sont nés de Dieu. Alors on va regarder un petit peu plus d'explications quand même. C'est quelque chose qui est important. Comment je peux appeler Dieu Père? Comment faire? En discutant avec Nicodème, quelques temps après, Jésus nous a donné beaucoup d'informations. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, versets 3 à 8. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème, un des chefs des Juifs, un homme instruit, un homme qui avait fait des études rabbiniques, qui était, connaissait bien les Écritures, il lui dit, comment un homme peut-il être quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi, de tout homme qui est né de l'esprit. Alors la nécessité de cette nouvelle naissance dont parlent les évangiles ici, afin de pouvoir être né et donc de pouvoir être enfant de Dieu et de pouvoir appeler Dieu Père, de pouvoir appeler Dieu Papa Céleste. Alors il y a une méthode pratique hein, qui est souvent utilisée quand quelqu'un voudrait savoir davantage et avancer plus loin. On parle de la conviction du péché. Le salaire du péché, c'est la mort, dit la Bible. Et il y a une première étape, un premier pas qui consiste à bien mesurer ce que c'est que le péché. Et si on a compris ce que c'est que le péché, l'offense en Dieu, la façon dont on peut faire du tort à Dieu, du tort aux hommes, suit la repentance, qui est le regret, le désir de changer. Hein, le pharisien qui était venu prier dans le temple, il n'osait pas s'approcher et il baissait la tête et il se frappait la poitrine en disant « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ». Il avait une attitude de repentance. Et il faut croire en Jésus, avoir la foi. Ça commence par demander pardon. On demande pardon à Dieu pour les fautes que l'on a commises. croire que Jésus est mort pour les péchés que nous avons commis, croire qu'il est vivant, ressuscité. L'apôtre Paul explique, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Épître aux Romains, au chapitre 10. Alors, il y a quelque chose que la bouche doit exprimer. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur et il y a également quelque chose qui doit être exprimé avec les lèvres. C'est important. Alors, certains utilisent l'expression recevoir Jésus, ouvrir son cœur à Jésus, donner sa vie à Jésus. En tout cas, l'étape suivante est de recevoir le pardon de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, et qui vient comme une réponse habiter le croyant et qui atteste, oui, tu es maintenant enfant de Dieu. Mon Père. Que ton nom soit sanctifié, nous apprend Jésus de prier. Alors Jésus, il parlait à des Juifs. Père, que ton nom soit sanctifié. Il comprenait bien cette question de que ton nom soit sanctifié, ce que ça signifie. Il y avait à ce moment-là beaucoup de dieux qui existaient, différents, des idoles, et il y avait le nom de tel dieu et le nom de tel dieu, et chacun jurait par son dieu, par le dieu qu'il avait, qu'il vénérait autour du peuple juif. C'était ainsi que procédaient les païens. Hein, il y avait même le nom de César qui devait être respecté. Aujourd'hui, tout cela s'est un petit peu terminé. On n'y a plus d'idole officielle comme ça. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des noms fameux que l'on entend régulièrement dans nos oreilles et qui ont beaucoup, beaucoup de puissance. Alors j'ai cherché un petit peu quels étaient ces noms fameux que l'on entend et à quels on fait référence beaucoup de fois dans notre société. Alors, il y en a un qui ne laisse personne indifférent, c'est la puissance monétaire. Tout le monde tremble devant la puissance des marchés actuellement. Les places de la bourse, les agences de notation, tous ces noms que l'on entend, l'indice Dow Jones, et qui semblent avoir une telle influence sur la marche de notre monde, une telle puissance, une puissance monétaire. Il y a les puissances du sport également. On parle des dieux du stade, de tous ces héros qui sont beaucoup plus forts que les autres, qui vont avoir d'immenses facilités pour marquer des buts ou qui vont courir le 100 mètres dans des temps records. Le sport, tout le monde se doit de connaître le nom des principaux footballeurs, des principaux sportifs de renom, sinon on passe vraiment pour un imbécile. Il y a la puissance de la technologie, où on est dans l'admiration de toutes les trouvailles qui se font et la façon dont les choses évoluent. Hein. L'autre jour, la télévision présentait des Google Glass, des lunettes spéciales avec un petit ordinateur intégré là qui nous fait projeter dans un œil, on voit ce qui se passe, et dans l'autre on voit comme l'écran qu'on pourrait avoir sur son téléphone, et on arrive à communiquer, etc., et à surfer même sur internet avec les Google Glass, et on peut être dans l'admiratif, mais qu'est-ce que l'avenir encore nous réserve demain. Et puis il y a des noms fameux, Apple, Google, Microsoft maintenant il est un peu dépassé, c'est plutôt Android, et tous ces noms fameux que l'on entend autour de nous. Je pourrais rajouter également les puissances du luxe, toutes les grandes marques, et quand on est équipé comme ça, on est dans un stade, on est bien habillé avec des objets de marque, on a les derniers outils technologiques dans la main, là vraiment on est quelqu'un qui est au top, du top de ce qu'un homme peut être ici-bas. Que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu doit être sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifié? Le fait que Dieu est un nom comme nous, le rapproche de nous. Le Dieu d'Israël a voulu habiter parmi son peuple et le projet qu'il avait lorsque Dieu a donné rendez-vous à Moïse, c'était bien de venir habiter au milieu des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël avaient avec eux un Dieu qui était proche et qui était saint. Et la sainteté de Dieu, ça ne veut pas dire la distance, mais ça veut dire Dieu est saint, vous aussi vous serez saint. C'est à part, complètement différent. Le nom de Dieu est complètement différent de tous les autres noms. C'est pas qu'il soit au-dessus dans le sens qu'il soit plus distant ou éloigné, mais c'est qu'il y a une différence comme il y a la différence entre le jour et la nuit, entre le nom de l'Éternel et tous les autres noms qui puissent être cités sur cette terre. Père, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit mis à part, qu'il soit vraiment dans notre cœur, dans notre esprit, très clair de qui est Dieu le Père et quels sont tous les autres. L'Esprit de Dieu est appelé l'Esprit Saint. Il y a toutes sortes d'esprits sur la terre. Il y a même, quand on parle des esprits, on parle même des esprits mauvais. Mais l'Esprit Saint, le mot Saint à côté de l'Esprit, désigne la présence de Dieu, la gloire de Dieu qui est différente de tout le reste, qui ne peut pas être comparé. Dieu est un Dieu jaloux et il ne donnera sa gloire à personne d'autre. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père, que ton nom soit sanctifié. La première parole que Jésus veut enseigner à ses apôtres à dire, remettre Dieu à sa place, c'est pas une question de distance, c'est une question de différence entre l'obscurité et les ténèbres, entre le jour et la nuit. Que ce soit bien clair pour nous-mêmes et pour notre humanité tout entière. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La venue du règne de Christ, est-ce que nous oublions de nous rappeler, est-ce que nous oublions, on vient de prendre le repas du Seigneur qui annonce sa mort jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à son retour. Est-ce que nous oublions de nous rappeler que l'objectif de Dieu, c'est la réconciliation de l'humanité tout entière avec lui, c'est lui-même qui va établir la paix. Je ne sais pas ce que sera le règne de Dieu concrètement quand il sera le règne sur la terre. On discutait autour du livre de l'Ecclésiaste mercredi dernier sur la compétitivité qui existait, qui faisait fonctionner notre monde. Les hommes sont en compétition les uns envers les autres, c'est ça qui les booste, qui les fait bouger. Quand Jésus-Christ viendra établir son règne, ce sera certainement quelque chose, un fonctionnement qui sera complètement différent. Que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Alors là, moi, personnellement, à la maison, on a pris l'habitude de dire merci au Seigneur avant les repas. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font comme ça aussi, que vous faites la même chose. de remercier Dieu avant de prendre le repas. Mais là, c'est parce que Dieu dit, il dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. C'est-à-dire, je prie, Seigneur, donne-moi ce que j'ai besoin aujourd'hui pour manger. Il y a des millions de personnes qui font cette prière tous les matins. Elles s'attendent à ce que Dieu leur donne quelque chose à manger parce qu'elles ont le frigo qui est vide. Nous, on a le frigo plein. Dans nos pays, on a le problème du frigo plein. Alors, on a du mal à... Donne-moi... À prier peut-être, donne-moi le pain de ce jour, parce qu'on voit le frigo qui est plein et on l'a sous les yeux, la foi. C'est un privilège et un inconvénient peut-être de notre société moderne. Alors, peut-être qu'il faut déplacer un petit peu la façon de penser. Le Seigneur s'adressait à ses contemporains ici. Il faut recontextualiser avec notre situation d'aujourd'hui, avec le fait que nous sommes généralement payés, non pas chaque jour, mais à la fin du mois, et qu'on a la fin du mois, et on sait que quand on a son salaire à la fin du mois, ben on va pouvoir aller, par la grâce de Dieu, jusqu'à la fin du mois suivant, que les besoins sont couverts, comme on dit, avec ce que nous avons sur le compte en banque. Mais on peut prier, Seigneur, donne-moi aujourd'hui la force d'aller travailler pour ceux qui sont actifs. Donne-moi la force aujourd'hui d'aller travailler. Notre santé est dans la main de Dieu et tout ce que nous avons est dans ses mains. On peut prier également pour, si on est comment on dit, sous la dépendance de quelqu'un, donne à mon père, donne à ma mère le courage d'aller travailler. Donne la force à ceux qui cotisent pour ma pension de retraite. On est dans un système de répartition en France. Ce sont les personnes actives qui cotisent pour les personnes qui sont à la retraite. Donne le courage à tous ceux qui travaillent, qui vont travailler pour que je puisse toucher ma retraite. Donne-moi chaque jour mon pain quotidien. L'homme ne vivra pas de pain seulement, enseigne la parole de Dieu en Deutéronome 8:3. L'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, pas de souci. On peut chaque jour demander à Jésus, demander à Dieu, donne-moi ce pain spirituel dont j'ai besoin. Et on l'a chanté tout à l'heure dans notre moment de louange. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Donc, peut-être on peut le lire dans d'autres traductions qui seraient plus claires. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire Luc 11, 4. Je sais qu'il y a une autre version sous la main. Luc 11, 4. Oui, vas-y, à haute voix. Oui.
La personne du Seigneur dit pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous.
Pardonnons-nous, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous. Jacques, qu'est-ce que tu as, toi?
Moi, je vais. Pardonne-nous nos péchés, oui, nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du mal, et ne permet pas que nous soyons tentés par le mal.
Oui. Nous-mêmes, nous pardonnons à tous ceux qui nous font du mal. Pardonnons-nous. Alors, est-ce que c'est clair? Ben, je pense que pour le Seigneur, c'est une leçon qui est difficile à apprendre. Pour demander à Dieu qu'il nous pardonne, ben nous aussi, nous faut être prêts à pardonner les autres. Alors, il a expliqué ça dans une parabole qu'on va prendre le temps de lire ensemble. Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. Qui veut la lire, la parabole que Jésus a donnée à Pierre, parce que Pierre, il avait du mal à comprendre, et je veux croire que nous sommes comme lui. 21, Matthieu 18, 21 à 35.
Alors, Pierre s'approche de Jésus et lui demande : Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois ? Jusqu'à 7 fois ? Jésus lui répond : Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à ceci : un roi veut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commence. On lui amène un serviteur qui lui doit 2 millions de pièces d'argent. Le serviteur ne peut pas rembourser. Alors le roi donne cet ordre : Vendez-le comme esclave. Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a. Et qu'il paie sa dette. Mais le serviteur se met à genoux devant le maître et il lui dit : Sois patient avec moi et je te rembourserai tout. Le maître est plein de pitié pour son serviteur. Il supprime sa dette et le laisse partir. Le serviteur sort. Il rencontre un de ses camarades de travail qui lui doit 100 pièces d'argent. Le serviteur le saisit, il lui serre le cou et lui dit : Rembourse ce que tu me dois. Son camarade se jette à ses pieds et il le supplie en disant : Sois patient avec moi et je te rembourserai. Mais le serviteur refuse. Il fait jeter sa camarade en prison en attendant qu'il rembourse sa dette. Les autres serviteurs voient ce qui est arrivé. Ils sont vraiment tristes. Ils vont tout raconter à leur maître. Alors, le maître fait venir le serviteur et il lui dit : Mauvais serviteur, j'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Toi aussi, tu devais avoir pitié de ton camarade comme j'ai eu pitié de toi. Le maître est en colère. Il envoie le serviteur en prison pour le punir. Le serviteur restera là en attendant qu'il rembourse toute sa dette. Et Jésus ajoute : Mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur.
Voilà. Alors, c'est clair quoi. Moi, j'ajouterai rien du tout. Ne nous induis pas en tentation. Il y a une discussion autour de cette traduction qui a fait le buzz là, dans les actualités ces derniers temps. Ne nous soumets pas en tentation. Ne nous induis pas en tentation, c'est ce que j'avais dans ma texte. Ne nous soumets pas en tentation. Ça, c'est la traduction œcuménique qui avait lieu jusqu'à présent parce que la prière du Notre Père est partagée par tous les chrétiens. Et chercher le moyen que tout le monde dise la même chose quand il y a des réunions œcuméniques. Donc, tout le monde s'était entendu là-dessus. Et là, il y a, vous savez, la nouvelle traduction qui est proposée. Ne nous laisse pas entrer en tentation. La nouvelle traduction liturgique de l'Église catholique. Alors, notre texte à induire, c'est un mot qu'on trouve ailleurs dans la Bible et qui est utilisé dans le sens de faire entrer. Comme le malade paralytique a été fait entrer par le toit pour être présenté à Jésus. Faire entrer, présenter, porter. Jésus avait été conduit par l'Esprit Saint, vous savez, dans le désert où il avait été tenté pendant 40 jours. Et la Bible dit bien que c'est l'Esprit Saint qui a conduit Jésus dans le désert. Et là, il a été éprouvé pendant 40 jours par Satan. Et donc, le Seigneur Jésus savait bien parfaitement de quoi il parlait dans cette prière qui nous apprend « Ne nous induis pas en tentation ». Dieu ne tente personne. C'est de Jacques qui clarifie bien tout cela. Je vous le dis rapidement. Je ne voudrais pas le citer de travers. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est amorcé, attiré par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, consommé, produit la mort. Jésus a dit à Pierre, « Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, comme du froment, comme du blé, quand il fallait séparer le blé de toutes les poussières qu'il y avait. On le faisait sauter dans un tamis comme ça. Mais, dit-il, j'ai prié pour toi, Pierre, pour que ta foi ne défaille pas. Et il ajoute, quand tu seras revenu de cette épreuve, fortifie tes frères. Quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Alors, ce n'est pas un scoop ce matin. Tous les chrétiens passent par l'épreuve. Le mot tentation et épreuve sont... C'est le même mot hein, dans le grec qui se traduit tantôt par tentation, tantôt par épreuve. Tous les chrétiens passent par l'épreuve, tous les chrétiens passent par la tentation. Il faut garder cela à l'esprit tout le temps. Ne pas croire que voilà, nous sommes devenus tellement spirituels que nous sommes au-dessus de la tentation ne peut jamais nous atteindre, que celui qui se croit debout ne prenne garde de tomber, prévient l'apôtre Paul. Ne nous induis pas, ne nous conduis pas en tentation. Dieu est souverain. Pourquoi il laisse Satan tenter les chrétiens? Je ne sais pas. Il est souverain, Dieu sait ce qu'il fait. Pourquoi il permet cela, je ne sais pas. Peut-être qu'on a une piste avec les paroles de Jésus à Pierre. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Et l'épreuve ou la tentation est certainement quelque chose qui va nous fortifier, qui va nous rendre plus fort, plus résistant, plus éprouvé, comme les bouteilles de gaz qu'on gonfle à 10 fois leur pression de service pour être sûr qu'elles ne vont jamais éclater dans la main de quelqu'un. Avant de les remplir, on les met à l'épreuve, on les à très forte pression et la bonbonne doit résister. Si elle a résisté, après on va pouvoir la remplir avec le gaz pour que tout le monde puisse l'utiliser en parfaite sécurité, sans avoir le risque qu'elle explose à la figure de monsieur ou de madame tout le monde. Donc Dieu est souverain, il faut accepter cela, mais ne nous induit pas en tentation, nous rappelle, chaque fois que nous demandons cela, nous rappelle que la tentation est une réalité, et Jésus-Christ lui-même a été tenté, et Jésus-Christ a expérimenté la puissance de la parole de Dieu pour résister à Satan. Et ça aussi, c'est peut-être quelque chose, si nous arrivons dans la tentation, si nous arrivons dans l'épreuve, c'est quelque chose que Dieu veut que nous expérimentions, la puissance de la parole de Dieu. On est à la fin de la prière, j'ai choisi la version courte. Je vous proposerai, pour terminer, qu'on récite cette prière. Est-ce qu'il y en a qui la connaissent? Des fois, on l'apprend quand on est jeune, enfant. La version longue. la version de Matthieu, chapitre 6. Le Seigneur a répété plusieurs fois cet enseignement. Il l'a répété là lorsque ses disciples lui demandaient de lui apprendre à prier, et dans son discours sur la montagne, lorsque ses disciples étaient assis autour de lui, il a appris également des instructions sur la prière. Matthieu chapitre 6, ça commence au verset 9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom... Alors on peut le faire à haute voix chacun, hein. Je m'entends comme si j'étais tout seul là. C'est bon ? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Bonne semaine à chacun. J'ai pas annoncé tout à l'heure.